Gloire à Dieu. Nous continuons notre série Béréen l'explorateur. Nous lisons la parole et nous en faisons quelques commentaires pour nous édifier au jour le jour, mais aussi pour nous enseigner et nous former pour l'avenir. Et nous en sommes au psaume 119. Comme nous avions dit la dernière fois, c'est le chapitre le plus long de la Bible. Et c'est aussi un chapitre très important parce que tout ce chapitre est consacré à la parole de Dieu. La parole de Dieu avec plusieurs synonymes, la loi de Dieu, les préceptes, les promesses, les jugements, commandements, ordonnances, statuts, tout ça décrivant les nuances qui forment la parole de Dieu et qui fait de la parole de Dieu quelque chose de large et de grand. Voilà. Et on avait dit que le psaume 119, comme certains autres psaumes, était un acrostiche, c'est-à-dire un écrit avec plusieurs parties selon l'alphabet. Voilà. Et l'alphabet qui est suivi ici, c'est l'alphabet hébraïque, avec comme première lettre Aleph, qu'on a traité la dernière fois, ainsi que Bet, qu'on a traité aussi. Et nous allons attaquer le Gimel. On aurait pu avoir les lettres pour montrer à chaque fois qu'on cite ces lettres, pour montrer leur forme en hébreu. Le Gimel, ça a un peu la forme du lambda en grec. Bon, c'est pas grave. Donc peut-être le mardi prochain, on va montrer ses formes. Voilà. Le Gimel est au verset 17. Verset 17. Psaume 119.
Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir. Quitte toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits, qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers.
Amen. Voilà, tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Les conseils doivent venir de la parole de Dieu, plus que de tout ailleurs. Et c'est quelque chose que beaucoup n'appliquent pas. Beaucoup préfèrent suivre des conseils des gens qui réussissent dans la vie, qui sont célèbres, qui ont été puissants, grands dans ce monde. Mais celui qui a écrit le psaume nous dit tout est dans la parole de Dieu. Les vrais conseils viennent de la parole de Dieu. Puisque Dieu voit tout, il connaît l'avenir. Alors que les gens qui ont réussi même sur terre, ils ne connaissent pas l'avenir. Leurs méthodes de réussite peuvent changer après un certain nombre d'années. Comme quelqu'un disait, voilà, il ne faut pas s'attendre à ce que l'innovation vienne de quelqu'un qui réussit dans un domaine. L'innovation viendra de quelqu'un qui veut sortir de ce domaine-là. La personne qui réussit voudra que les choses restent toujours ainsi. Voilà. Et c'est pourquoi nous devons nous confier dans les conseils de Dieu qui connaît l'avenir, qui sait ce qu'il faut pour notre temps à nous. Et il y a le verset 18 aussi qu'on utilise souvent pour dire aux gens, avant de lire la Bible, il faut demander l'éclairage du Seigneur. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. C'est Dieu qui nous éclaire. Même si nous savons lire, en réalité, la pensée réelle, la pensée profonde, vient de l'Esprit Saint. Le Seigneur Jésus nous l'a dit dans Jean 14, 26, le Saint-Esprit vous enseignera. Il ne suffit pas de lire, il faut aussi comprendre. Et cette compréhension vient du Saint-Esprit. C'est pourquoi cette prière-là doit être faite régulièrement par nous, les enfants de Dieu, quand nous lisons les Écritures. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Parce que parfois, on peut lire ça comme un roman. Vous savez, quelqu'un comme Jonathan Edwards, le tournant de sa vie, ça a été 1 Timothée, je crois, 1.17. Mais je pense que si beaucoup lisent ça, ils ne vont pas trouver ça extraordinaire. 1 Timothée 1.17, je crois, au roi immortel, Dieu invisible, soit la gloire, la louange, l'honneur au siècle des siècles. Voilà le tournant de la vie de Jonathan Edwards. Donc quand il a lu ce verset-là, il a eu comme une sorte de vision glorieuse de Dieu. Et ça a transformé complètement sa vie. Ça rejoint ce que nous sommes en train de dire. Ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta loi. Si on veut lire par l'intelligence, on n'en tirera pas grand-chose. Mais lorsqu'on s'incline, on dit « Seigneur, parle-moi à travers ce que je lis », ben, on peut être surpris par les transformations qui peuvent provenir de notre lecture. Le verset 19 aussi nous dit « Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements ». En tant qu'étranger, nous avons besoin de savoir qu'est-ce que les gens du pays, les propriétaires du pays, les dirigeants du pays ont établi comme loi quand on arrive dans un pays étranger. Nous sommes comme dans un pays étranger, mais Dieu, lui, connaît tout. Il connaît ce qui réussit, ce qui fait chuter, il connaît tout. Nous devons nous comporter avec l'humilité de l'étranger sur la terre pour demander aux responsables de l'univers de nous guider. C'est un verset aussi très important. Et puis, le verset 23, on va clôturer le commentaire sur Guimel. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Les statuts, c'est ça qui fixe une société, une association. Et quand il dit je médite tes statuts, donc je médite ce qui nous a construit l'univers, ce qui me construit. C'est comme une sorte de contrat aussi, les statuts. Je sais que même si les gens sont contre moi, ils parlent contre moi, mais c'est tes statuts qui comptent. C'est que toi, tu as décidé pour moi. C'est que tu as fixé pour moi. Voilà, c'est très important de revenir toujours à Dieu pour toute chose, au lieu de se laisser impressionner par ce qu'on voit physiquement. Et revenir à Dieu, c'est quoi? C'est sa parole, puisque nous ne voyons pas Dieu. C'est revenir à sa parole. Toutes les solutions sont dedans. Nous passons à Dalet, verset 25.
Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur.
Amen. Là, il y a une insistance sur la vérité et le mensonge. Ce Dalet nous montre que la parole de Dieu, c'est aussi la vérité, contrairement aux mensonges des raisonnements humains. Éloigne de moi, verset 29, la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Le mensonge, ce n'est pas seulement le fait de dire ce qui n'est pas vrai, c'est-à-dire de alors qu'on sait ce qui est bon, on dit le contraire. Ce n'est pas seulement ça le mensonge. Le mensonge, c'est aussi le fait de s'appuyer sur autre chose que la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Tout le reste n'est que relatif. Donc, en quelque sorte, c'est des formes de mensonges. Seule la Bible est vraie du début à la fin et restera vraie comme ça. Alors que aujourd'hui, on peut dire que un tel est le plus grand en taille sur la terre, mais 10 mois ou 5 ans après, quelqu'un d'autre peut être plus grand que lui. Donc cette vérité-là devient mensonge. C'est pourquoi il n'y a que la parole permanente, comme Pierre dit ça, permanente et vivante de Dieu qui est la vérité. Il faut que ça soit sérieux en nous sur ce plan-là. Parce que beaucoup de personnes s'attachent à la parole dans les parties qui ne choquent pas leur raisonnement. Et dès qu'on utilise les parties qui choquent leur raisonnement, ils sont déstabilisés et peuvent baisser dans leur foi. Bien-aimés, il faut comprendre que la parole de Dieu est la vérité. Même s'il y a des choses qui nous troublent, même s'il y a des choses que nous n'arrivons pas à expliquer, ce n'est pas une raison pour douter. Tout part de la parole de Dieu. C'est ça le principe. Ne cherchons pas à défendre la parole de Dieu par la science, par la logique, par l'archéologie. Tous ces procédés sont dangereux parce que vous voulez défendre la vérité par quelque chose qui est plus faible qu'elle. Les raisonnements humains, les découvertes humaines sont plus faibles que la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Donc, du coup, la parole de Dieu seule peut parler d'elle-même. Le reste est secondaire et peut être assimilé à une forme de mensonge. Donc, choisissons verset 30. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Si quelqu'un veut marcher dans la vérité, qu'il place les lois du Seigneur devant lui. Voilà. Ce n'est pas par des pratiques. Parfois, il y a des gens qui ont des pratiques qui paraissent purs, comme l'apôtre Paul en parle. Il dit, il y a des gens qui ont une forme de piété charnelle par des sacrifices, par une discipline. Bon, il dit, c'est pas ça, hein, c'est qui est la vérité. Il dit, ça montre un certain sérieux à vouloir être pur, mais ça ne fait que glorifier la chair, parce qu'ils font tout ça par eux-mêmes. Mais quand on a la parole sous les yeux et qu'on suit la parole, là on est dans la vérité. C'est ça qui est important, c'est pas les pratiques qu'on ferait pour montrer qu'on est plus pur que les autres. Nous passons à la lettre H, verset 33.
Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers les gains. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice.
Amen, amen. Il dit, détourne mes yeux, incline mon cœur, verset 36, vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que la parole de Dieu, c'est plus que les gains que le monde peut nous donner. Au fait, la parole de Dieu est la source de toute richesse. quand on fonctionne selon la parole, d'ailleurs il y a le passage de Josué 1:8 qui confirme ce que nous disons, médite cette parole jour et nuit, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Lorsqu'on est en train de courir après un gain visible, après les gains selon les schémas du monde, ça finit toujours très mal. J'ai souvent raconté cette histoire d'une forme de pyramide de Ponzi qui a fait fureur à un moment donné, il y a peut-être 30 ans au Congo. La pyramide de Ponzi, c'est l'escroquerie aux États-Unis que Madoff a employé pour voler l'argent des gens. C'est quoi? C'est qu'on te dit, tu donnes 500, dans deux semaines, tu auras 1000. Voilà. Ce qui, économiquement, n'est pas réaliste. Voilà. C'est pas réaliste. Vous voyez souvent, quand vous déposez des choses dans les banques, on vous fait des taux, mais après deux semaines, t'es 1000, ils te donnent l'argent de ce qu'on vient de lui donner par quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite, viendra un moment où beaucoup de gens vont réclamer leur argent au même moment. Il n'aura pas, puisque il n'aura pas toujours les gens pour renflouer au niveau de ceux à qui il doit. Voilà, c'est ça la chute de la pyramide de Ponzi. Ça s'est passé avec Madoff. Ça a l'habitude de se faire parce que les humains se font toujours avoir. Donc du coup, quand vous entendez des intérêts du genre 100%, 200%, il faut faire attention, surtout dans un espace, un intervalle de deux semaines. C'est déjà une année, c'est déjà beaucoup, mais deux semaines, c'est trop. Mais les gens qui ont commencé voyaient que ça marchait. Ça marchait. Ils donnaient 10 000, ils recevaient 20 000 en deux semaines. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Mais je remets encore les 20 000, je vais recevoir 40 000. Et puis, pendant ce temps-là, les vrais chrétiens qui, comme c'est écrit là, incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Les vrais chrétiens comprenaient qu'il y avait anguille sous roche, et se disaient, bon, non, il y a un problème. Nous préférons vivre par Dieu, par le travail accompli, là où nous travaillons habituellement, par nos salaires, et puis par la parole de Dieu. Mais pendant que ces chrétiens-là étaient dans cette forme de constance de vie, mais non extraordinaire, les autres, ils fêtaient. Parce que vous imaginez quelqu'un qui avait 10 000 et en deux semaines, il se retrouve avec 20 000. Il fait une petite fête pour célébrer cela. Et les chrétiens entendaient des gens se réjouir, crier de joie, mais je parle des vrais chrétiens, ils sont restés constants. Ils n'ont pas cherché le gain, ils ont cherché la parole de Dieu. Et quand la pyramide de Ponzi a éclaté, c'est-à-dire le monsieur s'est enfoui, celui qui faisait tout ça, eh bien, c'était les pleurs et les grincements de dents. Parce que les gens, ils se sont dit, mais pourquoi donner 20 000 pour que ça soit multiplié en 40 000? Vaut mieux donner le prix de toute une maison. Donc je vends ma maison, je donne 200 000, comme ça j'aurai 400 000. Alors, beaucoup ont fait ça, et c'est en ce moment-là que le monsieur a pris tout l'argent, il s'est enfui. Voilà. Donc, les gens se sont retrouvés sans maison, sans voiture, et beaucoup ont presque tout perdu comme ça, parce que derrière le gain humain et charnel se cache toujours un piège. Et les vrais chrétiens sont restés dans la constance, pas trop riches, mais pas non plus pauvres. Et voilà ce que dit notre bien-aimé, incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vie des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Les choses qu'on peut voir, beaucoup sont vaines. Elles nous trompent. On croit que c'est du solide, mais quand on y plonge, c'est vain. Mais quand on est dans la sécurité dans la parole de Dieu, on est encadré par la parole de Dieu, ce sont des choses solides et constantes que nous allons vivre. Éloigne de moi, verset 39, l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Nous n'avons pas à avoir peur des jugements de Dieu, comme Satan voudrait nous faire croire. Nous devons nous dire une chose, Dieu est amour, et même ses jugements ont en eux-mêmes, dans leur dureté, il y a la bonté de Dieu. Et un chrétien doit toujours espérer en la bonté de Dieu, malgré ses jugements difficiles. Les jugements peuvent faire qu'on perde des gens qui nous sont chers. Les jugements peuvent faire qu'on tombe dans la maladie. Les jugements, mais dans tous ces jugements-là, il y a l'idée de Dieu de nous récupérer et de nous aider. Alors, ne soyons pas déstabilisés par les jugements de Dieu, comme il vient de le dire, car tes jugements sont pleins de bonté. Nous passons à la lettre Vav.
Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, et à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts.
Amen, amen. On pourrait commenter sur chaque verset, quoi, tellement c'est beau. Au verset 41, Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. Répondre à celui qui nous outrage par la parole de Dieu. Toujours. Notre maître est un exemple. Il dit, quand il a été tenté par le diable, il a répondu comment ? Par la parole. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Et dernière réponse a été, tu ne tenteras pas ton Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de bien-aimés discutent avec des gens d'autres religions en se laissant piéger lorsqu'ils sont pressés, ils sont poussés à répondre par des raisonnements, par des réflexions humaines, même si elles ont pour base la parole de Dieu. C'est un piège. Prenons l'habitude de répondre avec les versets bibliques, en présentant la parole. Dieu se défendra tout seul. Mais quand on commence à vouloir expliquer les choses aux gens, ça finit mal. Répondons, parce qu'ils vont nous coincer, ils vont nous entraîner d'explication en explication jusqu'à ce que ça ne soit plus la parole de Dieu qui sort de notre bouche, mais notre parole. Pour faire taire tout cela, présentons la parole. C'est très important. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais tu présentes là où c'est écrit, c'est tout. Oui, mais comment se fait-il que puisqu'il est Dieu, il parle à lui-même? Tu dis, moi je te présente, oui, il parle, ce qu'il dit, c'est tout. Je te présente le verset. Oui, mais comment? Mais Dieu est tout puissant, c'est tout. Il peut faire comme il veut. Mais quand on commence à vouloir expliquer, petit à petit, on nous enferme dans une posture où nos réponses ne reposent plus sur les Écritures, mais sur notre intelligence. C'est ça le piège. Soyons très très vigilants, soyons prudents par rapport à cela. Nous devons toujours nous baser sur la parole, comme notre Seigneur l'a fait. Il l'utilisait, on lui dit, mais quand le jeune homme vient le voir, mais maître, je fais comment pour aller au ciel? Mais qu'est-ce qui est écrit dans la parole? Qu'est-ce qui est écrit dans la parole? Quand il dit à Nicodème, il faut naître de nouveau, les gens pensent que c'est Jésus qui ramène ça. Non, c'est un texte de l'Ancien Testament, dans Jérémie 31 et dans Ézéchiel 36. On parle de ça. C'est pourquoi il a dit à Nicodème, mais toi tu es un docteur, tu ne sais pas ça. On parle de ça. Il utilisait les Écritures à chaque fois. Et d'ailleurs, lui-même, il dit dans Jean 5, 39, vous lisez les Écritures pour connaître les choses, mais toutes ces Écritures parlent de moi. Voilà, les Écritures parlent du Seigneur. Prenons pour habitude de répondre aux gens qui nous outragent par les Écritures, toujours. Et n'ôte pas entièrement de ma bouche ta parole, la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche les ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Pourquoi il dit je ne rougirai point? Vous savez, quand on est face à un roi qui a un grand palais, qui a les signatures pour sortir les montants qu'il veut à la Banque nationale, de la Banque nationale, qui a des gardes du corps, qui a toute l'armée à ses ordres, sous ses ordres. Mais quand on est en face de quelqu'un comme ça, on se voit tout petit et on a tendance à considérer que ce qui est en nous est aussi petit. Or, ce qui est en nous, Dieu, sa parole, c'est plus grand que ce roi-là. N'hésitons pas devant ces gens-là, comme notre frère Paul, devant le roi Agrippa. Il lui a expliqué les choses. Il a dit, voilà ce qui m'est arrivé sur le chemin de Damas. Maintenant, je sers à prêcher ce Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. Même le roi a tremblé, il a dit, Paul, il suffit de peu pour me convertir. Mais Paul dit, mais c'est ce que je souhaite, que tu te convertisses. Il était libre face à ce roi Agrippa, Jean-Baptiste. Était libre face à Hérode. Il a dit, Hérode, tu as péché, tu as pris la femme de ton frère. C'est pas bon. Parce que la parole de Dieu est au-dessus de tout. C'est elle qui a créé même les rois. Donc, on n'a pas à rougir. Parfois, on a des frères et sœurs de même famille qui ont une situation sociale ou matérielle plus grande que la nôtre. Et on rougit quand on veut, on a honte de parler de notre Dieu, sachant que, voilà, nous on habite un HLM, et puis on a une voiture de 1998, et puis face à celui qui a une voiture de 2021, ben, tu te dis, bon, qu'est-ce que je veux dire de fort, là? Mais c'est faux, on n'a pas à rougir. La parole de Dieu est au-dessus de tout et tout le monde en a besoin. Parce que comme on a dit dans les autres, comme on a lu dans les autres textes, le reste, c'est une forme de mensonge. Ce ne sont que des apparences, ce ne sont que illusions. La vérité, c'est la parole de Dieu. La solidité, c'est la parole de Dieu. Je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime, je les aime. Et il appuie encore au verset 48, « Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. » Ça veut dire quoi? On doit en arriver à aimer la parole, non pas la lire, puisqu'à l'église on dit qu'on doit lire la parole, non pas la lire comme une sorte de... vous savez, quand on nous prescrit des médicaments à prendre, on prend... Parce qu'il faut prendre, parce qu'on veut préserver notre santé. Mais est-ce que qui aime les médicaments? Vraiment personne, pratiquement personne sur la terre. Les hypochondriaques ne sont pas non plus nombreux, quoi. Voilà. En général, nous prenons les médicaments parce que, pas par goût, parce qu'on veut préserver, on veut être guéri. Et beaucoup lisent la parole comme une sorte d'obligation, comme une sorte de médicament, alors que Dieu veut qu'on s'en délecte comme... des mets gras et succulents, comme c'est écrit dans la parole. Il faut en arriver à aimer la parole. Quand tu lis, c'est comme si tu manges, tu es bien. J'aime. Ce n'est pas une contrainte, mais ça me fait du bien. pas seulement à long terme comme un médicament, mais dès la consommation comme la nourriture, dès la lecture, c'est comme si je consommais une bonne nourriture. Voilà, c'est très important. Nous passons à Zayin, verset 49.
Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Des orgueilleux me chargent de railleries, je ne m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants, qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques, dans la maison où je suis étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances.
Amen, amen. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques, dans la maison où je suis étranger. Dernièrement, j'avais dit que ceux qui soutenaient les chrétiens persécutés dans la prison, parfois ils ont fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans en prison, c'était les réminiscences de la parole de Dieu, les souvenirs de la parole de Dieu, ça leur donnait la vie, ça leur donnait la vie, ça leur donnait la paix, la force, la parole de Dieu. Voilà. Ou lorsqu'on est étranger quelque part, on est perdu, on n'est pas perdu, parce qu'il y a la parole de Dieu qu'on nous devons serrer dans notre cœur, c'est ça qui produira de la force. Des orgueilleux me chargent de raillerie, je ne m'écarte point de ta loi. Il faut rester ferme. Il y a un côté de persévérance concernant la parole de Dieu. Les gens vont se moquer de nous en nous disant, mais où sont les résultats de ta fidélité, de ta consécration à ton Dieu? Où sont les résultats de ta méditation, de la parole? C'est pas grave. Reste ferme dans cela. Un jour, les gens réaliseront cela. Et il me vient au souvenir, l'histoire d'un Chinois qui était un peu simplet, voilà, mais qui était conscient de ce qu'il faisait. Et ce Chinois-là s'était converti à Christ, mais il était le seul chrétien du village. Et les gens ne le savaient pas. Pendant qu'il était à l'extérieur, dans les champs, enfin, les gens le voyaient en train de faire des gestes, de parler. Il ne savait pas quoi il faisait. Il considérait que c'est certainement parce qu'il est un peu simple qu'il faisait tout cela. Et il est arrivé que cet homme est mort. Et quand il est mort, les gens ont vu la différence. Après sa mort, il y a eu des tempêtes qui ont tout cassé dans le village. Il y a eu des incendies, il y a eu des inondations. Vraiment, et à un moment donné, il y a eu même à l'époque, en Chine, il y avait des bandits qui vivaient dans les forêts et qui faisaient des descentes sur les villages, les petits villages pour tout piller. Il y a eu donc une pareille descente aussi dans leur village. Ils se sont dit, mais c'est curieux, tous ces événements viennent après la mort de cet homme. Pendant qu'il était vivant, on n'avait pas tous ces problèmes-là. Tout ce que nous subissons doit être lié à cet homme. On va fouiller sa case pour voir qui il était vraiment. Et ils sont partis fouiller sa case, ils ont retrouvé la Bible. Quand ils ont lu, ils ont dit, ah, mais on comprend, cet homme était nourri par cette parole-là. Et c'est ça qui a fait que finalement, nous avons toujours été protégés tant que lui, il suivait ça. Nous aussi, nous allons nous mettre à lire ces écrits. Et c'est ainsi que tout le village se convertit. Et les tempêtes s'arrêtent, les rafles s'arrêtent, les incendies s'arrêtent. Voilà. En réalité, ce que faisait cet homme-là, qui paraissait anormal, c'est qu'il était en train de prier, mais eux, ils ne comprenaient pas. Ils priaient Dieu, « Seigneur, protège ce village, voilà, des attaques de bandits, Seigneur, qu'il y ait de bonnes récoltes. » Alors, tout se passait bien, parce que cet homme, malgré les railleries, malgré le fait qu'on l'ait traité d'homme simple, d'esprit, lui, il priait. Il restait ferme. Et on voit là, la suite, c'est que ça a produit la conversion de tout un village après sa mort. Voilà. Nous, les chrétiens, nous aimons nous laisser piéger par le système du monde qui marche à la cafetière, à la machine à café. Tu mets une pièce et ça sort le café. Non, avec Dieu, quand on suit sa parole, on construit des choses. Et parfois, on va voir ça plus tard comme un architecte qui commence à poser des fondements. Quand les fondations sont faites, vous savez, parfois les fondations ressemblent à des ruines, hein, à distance. Quand vous êtes à distance, vous pensez que vous avez à faire une ruine. Oh, c'est là le début de quelque chose. Voilà, c'est ça, à la parole de Dieu. Nous devons être fermes là-dessus, malgré les moqueries. Ah, mais vous êtes en retard. Mais non, toi, garde, je ne m'écarte point de ta loi, verset 51. Nous passons à Heth, verset 57. Oui, question.
Question Internet, il y a une internaute qui demande comment évangéliser en utilisant le verset de 1 Corinthiens 9, 20, quand Paul dit « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. » Donc l'internaute veut savoir comment évangéliser à partir de ce verset.
Déjà, il faut qu'on parle du contexte. Le contexte, c'est relatif à la loi. Paul est devenu chrétien. Et en tant que chrétien, ce sont les enseignements de Jésus qu'il pratique, sans dire que les enseignements d'avant qu'il pratiquait étaient faux. Parce que ça reste la parole de Dieu, c'est un processus de Dieu au milieu des Juifs. Voilà. Maintenant, il sait que la vérité, c'est Jésus. La vérité totale. Alors, face à cette réalité, pour éviter de choquer les Juifs, quand il était avec les Juifs, il se comportait comme un Juif, sans renier l'esprit de la grâce et de vérité en Christ, mais il se comportait comme les Juifs pour ne pas être... Pour qu'il ne soit pas un sujet de scandale, voilà, pour se faire accepter des Juifs afin de placer maintenant l'évangile de la grâce et de la vérité. Voilà, c'est ça le contexte. Parce que certains pensent que c'est pareil pour tous les cas, pour tous les peuples. Non, le peuple juif, la base de sa foi est véridique, puisque ça vient de Dieu. Même Jésus lui-même a dit le salut vient des Juifs. Mais on ne peut pas parler de la même manière des autres peuples. Là, c'est spécial. Donc, quand Paul parle avec les Juifs, il parle d'un peuple qui avait déjà des préceptes divins. Mais sauf que quand Jésus vient, il donne la vérité totale et la vérité optimale. Donc, c'est ça qu'on doit suivre maintenant. Alors, quand Paul est avec les Juifs, lorsqu'il y a un rituel juif à faire, les rituels d'autrefois, il le fait. Ce n'est pas contrevenir à la parole, mais il se fait juif pour qu'après il présente Jésus-Christ. Mais le but, c'est présenter Jésus, mais ce n'est pas faire les juifs pour juifs comme beaucoup de chrétiens qui judaïsent aujourd'hui. Là, le but de Paul, c'est présenter Jésus. Et donc, quand il est maintenant avec les gens qui tiennent à la loi, il pratique la loi, il va aller à la synagogue le jour du sabbat, il va faire tout ça pour... faire passer après l'évangile. Voilà, c'est ça qu'il fait. Le but, c'est faire passer l'évangile. Donc comment, maintenant je reviens sur la question, parler des missionnaires, pour parler des missionnaires. Les missionnaires, quand ils arrivent quelque part, je parle des vrais missionnaires qui sont venus à partir, beaucoup après Hudson Taylor, c'est que, qu'est-ce qu'ils font? Ils apprennent la langue du pays qui les accueille. ils font un effort pour s'habiller comme les gens du pays, si ce n'est pas indécent, ils font un effort pour manger la nourriture du pays, ils se font frères physiques des gens du pays. Voilà, c'est comme ça qu'on évangélise. Donc on se fait d'abord frère des gens humainement. Ensuite, on peut présenter l'évangile. Donc on ne peut pas venir directement vouloir tout imposer. D'abord, il faut se faire frère de ces gens-là d'une manière humaine. Compatriote, quoi. On devient chinois. Et en tant que chinois, on commence à parler de l'évangile. Mais venir en tant qu'anglais présenter l'évangile, ça peut créer des blocages liés à l'orgueil humain, liés au racisme, à tout cela. On se fait chinois d'abord, on se fait accepter en tant que chinois, et quand on présente l'évangile, c'est ça que Paul nous recommande là, avec les juifs. Donc, c'est pas ce que Paul voulait dire exactement, mais en quelque sorte, on peut extrapoler à cela. Nous continuons.
Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Aie pitié de moi, selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer, à cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts.
Amen. Voilà. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Voilà, c'est ça notre part. Notre part, c'est aimer la parole et la mettre en pratique. Le reste, c'est Dieu qui fait. Dieu nous demande de considérer sa parole, de considérer qu'elle est vraie, de construire nos vies sur ça. Les exploits, les guérisons, les bienfaits, c'est lui qui fera. Il ne faut pas que nous, on force. C'est comme si c'est nous qui voulons mettre en œuvre la parole dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, forcer. Non, on garde sa parole. On l'accepte, on la vit, et c'est lui qui fera. S'il faut en parler, on la présente, mais on ne cherche pas à obliger les gens. On présente la parole, et c'est ça notre part. Garder, c'est mettre en pratique et présenter. Ah, c'est ça notre part, et c'est lui qui fera le reste. Donc chacun d'entre nous, nous devons nous intéresser à sa parole, méditer, grandir dans la connaissance de sa parole. Et là, il réitère ce qu'on a lu précédemment, verset 61, « Les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. » C'est la parole qui va nous protéger. Vous savez, il y a des gens, même pendant les guerres, il y a des intercesseurs qui ont prié. On m'a donné l'exemple de Rhys Howell qui, en Angleterre, pendant que sa ville, Swansea, était bombardée. Lui, il était dans la cour de sa maison, en train de lever les mains, en train de prier, alors que tout le monde était dans les caves. Lui, il lève les mains, alors que les avions sont au-dessus. Il est en train de prier pour que l'école biblique ne soit pas touchée. Et effectivement, lui, il était dans sa maison, mais l'école biblique était ailleurs. Mais il tenait tellement à la formation des disciples qu'il priait et l'école biblique n'a pas été touchée. Voilà, c'est rester dans la parole, même si le nombre de méchants est très grand. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a des gens qui exagèrent, comme Justin Trudeau au Canada. Il faut qu'on va faire une commission de quelques personnes pour prier par rapport à lui, pour que Dieu casse tout son travail de dictateurs. Aujourd'hui au Canada, les gens ne respirent plus. Il est en train d'accumuler des lois liberticides qui étouffent vraiment le pays à plusieurs niveaux. Donc c'est ça, bien aimé, malgré de tels méchants qui paraissent très puissants, nous allons contrecarrer par la prière. Donc tous ces présidents là qui sont en train de se manifester clairement pro-nouvel ordre mondial, acteur puissant du nouvel ordre mondial, on va faire des commissions de prière pour, par rapport à eux, parce que le Seigneur nous a dit qu'il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. C'est ce que nous allons faire. On ne va pas rester spectateur, on va entrer en prière par rapport à ce genre de dirigeant à la Hitler. Voilà. Nous continuons. Tête. Verset 65.
Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent.
Amen, amen. Donc, je pense que ça, beaucoup ont reconnu notre chant qu'on a l'habitude de chanter. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Tout à l'heure, on va clôturer avec ce chant. Voilà. Et il dit, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Les échecs sont là pour nous ramener à la parole. Vous savez, il y a des gens, malgré les échecs, quand les échecs arrivent, au lieu de revenir à la parole, ils cherchent encore d'autres formules ailleurs. C'est ça qui est malheureux. Les échecs doivent nous ramener à la parole, doivent nous dire, nous faire poser la question suivante, qu'est-ce que j'ai négligé dans la parole? Qu'est-ce que j'ai mis de côté dans la parole? Mais beaucoup, quand les échecs arrivent, ils cherchent encore d'autres formules ailleurs. Pourquoi t'éloigner? Reviens. Le salut, la réussite, c'est dans la parole. Donc, c'est pourquoi Dieu nous humilie dans nos voies extra-bibliques pour qu'on finisse par revenir. Mais malgré ça, certains s'éloignent encore davantage. C'est pas bon. Revenons. Il le dit encore au verset 67. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Donc, quand Dieu nous voit nous égarer, il va permettre qu'on échoue pour qu'on revienne à la parole. Souvenons-nous de ça. Donc, face à l'échec, qu'est-ce que tu fais? Reviens à la parole. Relis et Dieu te montrera ce que tu n'as pas bien fait dans la parole. Et quand tu vas te replonger, la délivrance va se manifester. Donc nous allons faire le yod pour clôturer aujourd'hui, avant de chanter « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche ».
Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Qu'ils soient confondus, les orgueilleux, qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Qu'ils reviennent à moi, ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte.
Amen, amen. Voilà. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Voilà. Je sais, ô Éternel, que tes jugements, verset 75, sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Nous l'avons dit précédemment, les jugements de Dieu peuvent créer pour Dieu la douleur. Mais sachons que c'est juste. Ah oui, mais comment un enfant comme ça est mort? Dieu est juste. Ses jugements sont justes. Même si nous interprétons un événement comme un jugement, sachons qu'il y a la bonté et la justice de Dieu dedans. Et quand on rejette, vous savez, qu'est-ce qui se passe dans beaucoup de chrétiens? Ils rejettent le jugement de Dieu parce que ça paraît trop négatif. Ils disent, ah mais non, c'est le diable. Non, c'est Dieu contrôle tout. On avait dit que l'une des particularités des écrivains de psaumes, c'est que même s'ils dénoncent les mauvaises œuvres des méchants et du diable, mais ils s'en prennent à Dieu lui-même. Ils ne s'en prennent pas au diable. Ils considèrent que Dieu est tout puissant pour brider le diable. Donc si Dieu a laissé faire, c'est vers lui que nous devons nous tourner. Donc quand nous subissons des jugements dans le pays, dans la famille, sachons que ces jugements sont justes. Quand nous subissons des jugements dans notre corps, sachons qu'ils sont justes. Qu'ils sont justes. Et qu'est-ce qu'il faut faire, comme on a dit précédemment? Revenir à la parole, toujours. Ne nous éloignons pas. Revenons. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. Donc on revient encore sur le fait que Dieu va nous humilier pour nous ramener à la parole. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Voilà. C'est Dieu qui est la source de tout. Peut-être ce n'est pas dit clairement ici que c'est la parole qui a tout créé, mais nous on le sait qu'au commencement c'est la parole qui a tout créé. On voit ça dans Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous savons que tout a été créé par la parole, de sorte que les choses visibles viennent des choses invisibles. Et là, il dit, mais c'est toi qui m'as créé. Voilà. Alors, aide-moi à assimiler les règles de l'existence. Puisque c'est toi qui m'as créé, c'est comme Ikea qui a créé son meuble. Est-ce qu'on va chercher le manuel de montage auprès de But ou de Conforama? Non, on va chercher le manuel de montage auprès d'Ikea qui a créé son meuble. Voilà, nous sommes comme un meuble créé par Dieu, mais on va chercher le manuel de montage ou bien d'entretien chez qui? Quand tu achètes un véhicule chez Toyota, tu vas chercher le manuel d'entretien chez qui? Chez Mercedes? Non, tu vas chercher chez le fabricant. Tes mains m'ont créé, alors j'ai besoin de connaître tes commandements pour gérer ce que tu as fait. C'est aussi simple que ça. Voilà toutes les nuances liées à la parole de Dieu. Qu'il revienne à moi, verset 79. Ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si tu aimes la parole de Dieu, les gens qui aiment aussi la parole de Dieu viendront à toi. Ne cherche pas la compagnie des gens qui n'aiment pas la parole de Dieu. Dans un autre verset 53 de Zaïn, donc verset 53, il avait dit « Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. » Les gens qui sont attachés à la parole et le reste ne vont pas du tout s'entendre. C'est pourquoi il dit « Qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. » Quelqu'un qui connaît la parole, il ne va jamais créer des problèmes à un autre encore qui s'attache à la parole, jamais. Qu'ils reviennent à moi ceux qui aiment la parole. Ceux qui aiment la parole vont s'attacher à ceux qui aiment aussi la parole. Nous allons prier pour remercier le Seigneur, lui demander qu'il nous ramène à sa parole, à la lecture, à prendre ça au sérieux, vraiment à pratiquer comme un manuel d'utilisation, d'entretien de cette vie que ses mains ont créée. Père éternel, nous venons prier, Seigneur, que tu nous aides à revenir à ta parole, à la lecture de ta parole, à revenir, Seigneur, à la prendre au sérieux pour faire ta volonté, Seigneur. Nous nous attendons à toi parce que parfois Nous sommes impressionnés par ce que nous voyons à l'extérieur. Or, c'est rien du tout. C'est des mensonges. La vérité, c'est ta parole. Seigneur, que nous puissions tout construire avec ta parole. Que nous puissions prendre nos projets, mettre la parole de côté, et à côté de ces projets, et voir comment dans ta parole nous résolvons, nous accomplissons ces projets, Seigneur. Que nous puissions tout faire selon ta parole. Merci Seigneur de nous aider à t'atteindre. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen.